Bonjour à tous, il est 11h, vous êtes sur Fréquence Mistral et nous retrouvons François Malabaf pour une émission spéciale au cœur des correspondances de Manosque. Bonjour François.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est le troisième numéro de cette émission spéciale consacrée aux correspondances 2017 à Manosque avec plusieurs invités aujourd'hui. J'aurai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Aveline qui est la secrétaire de l'association des Mille et Une Nuits des Correspondances et qui est aussi en charge de l'association Éclat de Lire à Manosque, une personne très dynamique, très active. Un autre personnage très actif, très dynamique, c'est Julien Delmer qui a écrit un superbe Minuit Montmartre qui sera notre invité. Également Joël Baquet qui signe magnifique Fonte des glaces. Et puis on aura aussi l'interview de Miguel Bonnefoy, mais on va tout de suite commencer par le programme du jour qui est délivré par notre ami Olivier Chaudançon, le directeur des correspondances. Olivier Chaudançon, le programme de ce vendredi.
Un programme copieux, là se déroule en ce moment le traditionnel apéro littéraire qui va faire entendre des textes de Miguel Bonnefoy d'une part et d'Hervé Le Tellier d'autre part, et puis une fois les lectures faites par les membres du comité de lecture, les deux auteurs monteront sur scène pour un dialogue autour de leurs deux livres assez remarquables tous les deux, remarquables de drôlerie et de mordant pour Hervé Le Tellier, remarquables d'imagination et de fantastique pour Miguel Bonnefoy. Et puis en tout début d'après-midi, il y a 14h, un moment très, très attendu des correspondances, c'est la battle littéraire. Ce moment où les jeunes sont invités à monter sur scène pour parler de leur lecture et convaincre le public du texte qu'ils ont lu, de l'intérêt d'un livre. Donc c'est à celui qui sera le plus convaincant pour exprimer ses lectures et ses passions littéraires. À 14h30, la sieste littéraire, acoustique, habituelle, avec Bastien Lallemand et puis ses compagnons J.P. Nataf, Maëva Lebert, David Lafort et deux écrivains invités du festival, en surprise. À 15h, une écrivaine irlandaise, Lisa McInerney. Et puis, on poursuit la journée avec un programme très dense de rencontres. 16h30, c'est Philippe Jaénada, que le public de Manosque commence à bien connaître, avec ses enquêtes réelles sur des vrais faits divers, mais son travail d'archives et de recherche qui est passionnant parce que ça permet de remonter dans des archives judiciaires notamment, et toujours aussi parsemé de digressions et de drôleries dans le style inimitable de Philippe Jaénada. Il sera en dialogue avec Richard Morgiev, auteur qui est déjà venu à Manosque, mais je pense dans les toutes premières éditions, donc on est ravis de le retrouver. Dans le même temps, 16h30, toujours une rencontre très parisienne, puisqu'il y aura d'une part Julien Delmer, notre résident, qui a écrit sur Montmartre et la vie artistique à Montmartre au début du XXe siècle, et puis Anne et Claire Berest, qui ont écrit sur leur grand-mère, Gabrielle Buffet, et sur son histoire, sur ce qu'elle a vécu avec le peintre Francis Picabia. À 16h30 toujours, et donc il faudra vraiment faire des choix difficile à mener, Lutz Bassmann. Alors je dévoile quand même l'autre identité de Lutz Bassmann, qui est sans doute plus connue aux oreilles des manosquins. Il ne s'agit que de Antoine Volodine, mais Antoine Volodine aime écrire sous plusieurs noms car il mène plusieurs œuvres en parallèle. Donc Antoine Volodine fera entendre l'œuvre de Lutz Bassmann. À 18h, une grande dame, Chantal Thomas. Nous sommes très heureux de la recevoir. Elle a écrit un magnifique livre sur sa mère, un magnifique livre sur la vie, sur la nage aussi, et sur plein de sujets. 18h, on pourra aussi faire le choix d'aller écouter Jenny Fagan, une auteure écossaise qui sera en dialogue avec Victor Poucher, un jeune écrivain qui nous livre son premier roman très singulier où le narrateur lit dans la presse régionale du côté de Rouen, article un peu étrange qui dit qu'il a plus des oiseaux. L'incident va se reproduire et il va décider de mener l'enquête. Autre dialogue, celui qui réunira Arnaud Bertina et Marielle Massé. Arnaud Bertina pour un livre assez politique où il met en scène une usine en difficulté, un secrétaire d'État qui vient en visite. Cet homme politique va se faire séquestrer par les employés de l'usine. Il dialoguera avec Marielle Massé qui, elle, a fait également un texte très engagé sur les migrants. 18h, on pourra aussi faire le choix d'écouter Philippe Besson. Philippe Besson qui, là, sera là pour lire son précédent roman, Arrête avec tes mensonges, une lecture à deux voix. Il sera accompagné du jeune comédien Solal Forte. À 19h, un peu plus tard, une autre lecture qui est proposée, c'est d'Éric Reinhardt, qui lira son dernier livre, La Chambre des Époux, accompagné par une chanteuse lyrique, Léa de Sandre. Et puis à 21h au théâtre Jean Le Bleu, une grande lecture, c'est le terme qu'on emploie pour ces lectures du soir, mais une lecture qui me semble être assez événementielle. D'une part, Laurent Poitrenaud est un lecteur à mes yeux exceptionnel, mais par ailleurs, il va lire un texte qui est également exceptionnel, ce sont les lettres à Anne de François Mitterrand. On va découvrir à quel point l'homme politique François Mitterrand est un écrivain, au fond, on le savait un petit peu, mais son style est assez éblouissant. Et puis, je ne parle pas uniquement du style, je parle de la vivacité du ton, de l'amour qu'il déploie pour Anne Pinjot, qu'il déploiera tout au long de sa vie. Il y a ce recueil de lettres, je crois qu'il y en a un millier. Alors évidemment, on a fait une sélection pour cette lecture. Mais il y a aussi un carnet où il fait des collages, il découpe des choses, il dessine. Enfin, on dirait un jeune homme. C'est assez stupéfiant. Et puis, finir la journée en musique est notre règle. Donc là, nous allons la poursuivre et l'achever avec un jeune groupe extrêmement talentueux qui s'appelle Radio Elvis, qui a gagné, je crois, une victoire de la musique cette année et qui mêlera ses chansons à des moments de lecture et notamment des lectures autour de l'œuvre de Jack London.
Retour en plateau sur l'émission spéciale consacrée aux correspondances et j'ai le plaisir d'accueillir Joël Baquet. Bonjour Joël.
Bonjour.
Nous allons parler avec vous de La Fonte des Glaces qui est paru chez POL. C'est un roman qui nous a impressionnés. La Fonte des Glaces, c'est une histoire tordue, celle de Louis, un charcutier veuf et sans relief qui se prend de passion lors d'une brocante pour un manchot empaillé. Il lui crée un univers glaciaire dans son grenier à Toulon, y passe de longues heures à des températures négatives, puis lui ajoute une dizaine de congénères, tous joliment empaillés, qu'il appelle la Dream Team et saute le pas. C'est-à-dire qu'il va affronter le froid extrême à la rencontre des singuliers volatiles, d'abord au pôle sud, en Antarctique, avec un guide inuit exilé qui lui fait déguster d'étranges biscuits soviétiques, puis au pôle nord où presque malgré lui il prend la défense des manchots et part en croisade contre le réchauffement climatique. Il fait la connaissance d'Alice, une jeune journaliste, et en compagnie de chasseurs d'iceberg, la scène de la folie qui s'empare du navire est digne de Tati ou de Fellini. Louis devient un héros planétaire que Toulon et le RCT, son emblématique équipe de rugby, attendent comme le Messie. Histoire tordue, je l'ai dit, une fin paroxysmique qu'une plume imaginative sert parfaitement. Joël Baquet, comment est née cette intrigue de La Fonte des Glaces ?
Alors l'intrigue est née, en fait, comme tous mes livres, je pars d'une phrase qui me vient sans trop savoir d'où elle arrive, et ensuite, tout simplement, une phrase en appelle une autre, et le livre s'écrit comme ça, mot après mot, phrase après phrase, jour après jour, sans que je sache du tout où j'aille, et de quoi sera fait précisément la prochaine phrase. Donc il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'histoire préconçue dans mon esprit, ça vient vraiment comme ça.
Vous vous êtes néanmoins renseigné sur le métier de charcutier, sur l'existence des manchots, sur les chasseurs d'iceberg.
Oui, mais là, merci Wikipédia, c'est-à-dire je me renseigne sommairement.
Pas faire de plume, attention.
Ah oui, exact. Mais non, mais je me renseigne sommairement de façon à ne pas faire d'erreurs factuelles, mais c'est... Le propos n'est pas technique.
Alors Louis, le héros de votre livre, il est né en Afrique, où il fait plutôt très chaud. Ses exploits se déroulent en Amérique et au pôle, puis en France. La géographie dans votre livre a son importance.
Oui, c'est vrai qu'on y voyage beaucoup, et il y a beaucoup de correspondances entre la vie et puis la fin du père du personnage, celle du personnage lui-même, les endroits où ils ont vécu. Il y a beaucoup de liens qui se tissent comme ça entre le père et le fils tout au long du livre, et la géographie fait partie de ces choses qui relient le petit passage sur le père en tout début de livre, et puis le récit autour du personnage principal qui donc s'appelle Louis. Donc la géographie, oui, est très présente.
Avec aussi un système de contraste, c'est-à-dire que le père de Louis, qui est dans un pays très chaud, il sera tué par un éléphant, il meurt malheureusement écrasé par un éléphant. Louis n'a que 10 ans, et Louis se prend de passion pour un animal tout petit qui est un manchot. Là aussi, et qui vit, lui, par contre, dans des terres plutôt glacées.
Oui, il n'y a pas du tout de ma part une volonté de faire jouer des contrastes sur la taille de l'animal, ce genre de choses. C'est vraiment, les choses viennent comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis je crois que d'une façon générale, j'aime les animaux. Du coup, dans mes livres, je mets souvent des animaux. Voilà.
Et le jour où on verra un manchot à côté d'un éléphant, on vous appellera, parce qu'effectivement, ce sera un miracle.
Oui, mais enfin, si l'éléphant remue ses oreilles, il ne m'appelait pas, parce qu'il vaut mieux rester à distance en ces cas-là. Oui. Mais il y a beaucoup de mouches dans ce livre, curieusement. Je me suis rendu compte, après l'avoir écrit, il y a beaucoup de mouches, des mouches polaires, des mouches africaines, des mouches. Il y a beaucoup de mouches. Voilà. Il faut croire que j'aime bien les mouches.
Puis c'est intéressant parce qu'effectivement, on croise beaucoup d'animaux aussi dans votre livre et on apprend beaucoup de choses, notamment sur les manchots. Il y a un autre élément qui joue un rôle important dans votre livre, ce sont les réseaux sociaux. Et notamment lorsque Louis part à la défense de l'environnement.
Louis, en fait, est un personnage qui est un retraité, veuf, dépressif, et qui, en se prenant de passion comme ça, plus qu'imprévu pour le manchot empereur, va trouver un sens à sa vie. Il va retrouver un sens à sa vie, et La Fonte des Glaces, le titre du livre, c'est La Fonte de la Banquise, des glaciers. Mais c'est également la fonte des glaces qui emprisonne Louis dans une vie qui a cessé de s'écouler et qui, grâce au manchot empereur et à tout ce qui va s'en suivre, cette vie de Louis va reprendre son cours, redevenir liquide et serpenter comme ça de continent en continent. Et Louis va, depuis qu'il est veuf, va enfin retrouver une certaine, peut-être pas joie de vivre, mais en tout cas va être en mouvement, va être en action. De La Fonte des Glaces, c'est un livre qui parle du réchauffement climatique, mais aussi et beaucoup de la solitude, en fait, et de la nécessité d'avoir un sens à sa vie, aussi loufoque soit-il.
Et le réchauffement climatique, c'est le sens de votre livre ?
Ça en fait partie, c'est pas un livre sur le réchauffement climatique, mais c'est une question qui est très présente, puisque le personnage, Louis, va s'intéresser au réchauffement climatique, à la fonte des glaciers, relativement au manchot empereur, dont il a peur qu'un jour il soit privé de ses terres, ou plutôt de ses glaces natales, natives.
Alors, il y a aussi, évidemment, beaucoup d'humour dans votre livre. Il est très drôle et il est plein d'images. Par exemple, le surnom de Louis dans sa tendre adolescence, c'est Fuck Dog Louis. Il adore la musique punk. On fait la connaissance aussi d'une machine étonnante dans l'atelier du charcutier qu'est Louis avec son épouse. La clean en cours électrique 3 vitesses tout alu, qui est une machine à découper le jambon, si j'ai bien compris. Elle existe ?
Non, non, non.
Non, c'est une invention. D'accord. Et puis, on y voit aussi quelques images, quelques scènes magnifiques qu'on imagine. Bien sûr, le flirt de Louis avec une femelle manchot. Alors ça, c'est pas piqué des vers, mais je sais pas. Ça, c'est certainement inventé. On va voir. Il est dubitatif quand même, Joël Jacquet, là. Et puis, cette scène incroyable de la folie douce qui survient dans le bateau des chasseurs d'iceberg, l'arrivée des secours, l'arrivée aussi dans la rade de Toulon, quand toute l'histoire s'est déroulée entraînant un iceberg, enfin quelque chose d'assez étonnant. Où vous allez chercher tout ça, Joël Jacquet ?
Comme je le disais au début de notre propos, c'est l'imaginaire qui fonctionne et qui m'amène là où il veut. C'est une histoire effectivement que j'espère assez drôle. Louis, c'est vraiment le, j'emploie ce terme dans le livre, le Forrest Gump de l'écologie, c'est-à-dire c'est le anti-héros par excellence. Il devient une icône médiatique. Alors, il représente à la fin du livre la cause écologique. Et après avoir fait à 2-3 reprises le buzz, mais toujours pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, il n'a jamais cherché la notoriété. Et il l'a subi. Il l'a subi. Et à son corps défendant, et ça se finira plutôt pas bien pour lui. Donc, Louis, c'est vraiment le anti-héros dans toute sa splendeur, si on peut dire. Et c'est un destin qui voit sa, comme je le disais, sa solitude prendre fin grâce à une passion. Mais le fait qu'il trouve cette passion va l'amener vers un endroit où peut-être il n'aurait pas aimé aller au tout début de sa rencontre avec le manchot empereur. Mais enfin, ça, j'en dirai pas plus puisque ça fait partie de de la narration.
Il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'ils se retrouvent avec un guide inuit, avec un nom imprononçable, mais au pôle sud. Là aussi, on est dans un contraste assez étonnant. Et puis, il y a cette histoire des fameux gâteaux soviétiques, très particulière, qu'on ne dévoilera pas, bien évidemment. Si vous permettez, je vais lire un extrait de votre livre. Il s'agit du Nathanaël. Le Nathanaël, c'est un gros chalutier qui va à la chasse aux icebergs et qui espère bien un jour, grâce à un des membres de l'équipage, qui est un agent de marketing forcené, pouvoir vendre de l'eau d'iceberg, vous vous rendez compte, de l'eau qui n'est pas polluée, et la vendre à un très haut prix. Alors voilà ce qui se passe. Donc, le Nathanaël mit le cap sur l'objet détecté par le radar. C'était bien un iceberg. Il flottait calmement, ignorant une houle pourtant assez forte pour imposer sa cadence au Nathanaël. Marc l'estima à une quarantaine de tonnes. Une bonne prise, annonça-t-il, comme si la chose était déjà faite. Alice prit quelques clichés de l'iceberg et de l'équipage qui s'affairait. Le pilote positionna le chalutier suffisamment près de l'énorme bloc de glace pour qu'Alice et Louis aient un mouvement de recul en voyant cette masse les dominer. Louis tira sur sa capuche en se disant que cette montagne de froid aggravait l'air environnant déjà très très frisqué. Tous chaussèrent des lunettes de soleil pour se protéger de la puissante réverbération. Le Nathanaël fut maintenant à distance de la paroi de glace par les gaffes des hommes d'équipage, tandis que Marc détachait quelques morceaux de glace à l'aide du pic à glace pour le café, comme promis, précisa-t-il. Et voilà, donc on fait du café avec un reste de banquise. C'est la réalité, ça ?
Les chasseurs d'iceberg, en effet, quand j'écris le livre, je les avais inventés, et puis je me suis rendu compte, j'ai appris que ça existait réellement. Il y a des bateaux qui font fondre les icebergs pour les embouteiller, puis vendre l'eau polaire, l'eau préhistorique.
À des prix rédhibitoires, je suppose.
C'est aux environs de $15 le litre. Il y a aussi des bières, de la vodka qui utilisent de l'eau dite préhistorique.
Il y a des acheteurs ?
Il y a des acheteurs, bien sûr, oui.
Donc effectivement, c'est un petit peu le sens aussi de l'arrivée de cet iceberg, parce qu'évidemment, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a un iceberg qui est traîné par un navire et qui arrive en rade de Toulon. Donc vous imaginez l'accueil qui est fait à ce héros mondial qui est Louis, et qui en plus ne s'intéresse absolument pas au rugby, mais dans une scène incroyable dont j'ai parlé tout à l'heure, crie « Allez Toulon, vas-y rugby », peut-être même qui crie le « Pilou-pilou », le fameux hymne des rugbymen de Toulon. Là aussi, il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'imagination. Vous écrivez, Joël Baquet, pas mal de poèmes, mais là, les romans, vous laissez libre cours à votre imagination.
Oui, enfin, dans la poésie aussi, mais c'est un imaginaire plus textuel. Dans un roman, par définition, il y a une histoire, une narration, des personnages, et une plus grande liberté narrative, oui.
Votre volonté, c'est aussi de faire rire un petit peu, d'amuser le lecteur ?
Ben, en fait, pas du tout. L'humour, c'est quelque chose qui me constitue, mais je n'aimerais pas l'idée de faire des livres pour rire. En fait, pour moi, l'humour, c'est plutôt, dans tous les romans que j'écris, c'est l'empaquetage d'un vide existentiel. Qu'il y a chez Louis, qu'il y avait chez les personnages de mes précédents romans. Donc l'humour, c'est vraiment en quelque sorte la surface émergée de l'iceberg. Et la surface immergée de l'iceberg, c'est quel est le sens à donner à sa vie. Et parce que mes personnages sont toujours des anti-héros.
Je vous rappelle que le titre du roman, c'est bien La fonte des glaces. Donc parler d'iceberg, ça va très bien ici. Mmh. Effectivement, c'est une belle image. Vous êtes présent aux correspondances de Manosque. C'est la première fois que vous venez ?
Oui, tout à fait.
Vous allez être tout à l'heure en discussion, c'est ça ? Non, c'est hier.
C'était hier.
Comment ça s'est passé ?
Ça s'est passé très bien. C'était très sympathique. Il y avait beaucoup de monde. Et puis, enfin, voilà, je crois que c'était
vous
très,
êtes
très sympa, oui.
Réceptif des réflexions des lecteurs à votre endroit ?
Ah ben, bien sûr, évidemment. On entend ce qui est dit, et puis quand on a l'occasion, en rencontre publique ou en privé, comme ça m'est arrivé ce matin, tout à l'heure, on discute, on parle, on échange des impressions. Le propre d'un festival, c'est d'échanger quand même, de rencontrer les personnes. C'est vrai dans la vie en général, et ça l'est aussi dans un festival de littérature.
Et en même temps de croiser des gens qui ne vous connaissent pas et qui vous découvrent et qui éventuellement vous feront dédicacer ce roman incroyable. Je le rappelle, donc, La Fonte des Glaces de Joël Baquet, c'est chez POL et ça vaut vraiment le coup. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et y a plein d'images, plein de choses dont on pourrait faire des adaptations cinématographiques. Il y a des scènes qui sont magnifique, merveilleuse, et à voir, et ce personnage qui en fait est très attachant, Louis, hein, c'est un personnage, c'est un monsieur tout le monde qui devient un héros, un symbole particulier, et qui défend une cause après. Vous avez des nouvelles du manchot empereur, hein, du premier, comment il appelle le commandant, non, comment il a un surnom,
je crois. Non, le premier, il a été trouvé dans une armoire flamande, sur une brocante, donc il appelle le flamand, tout simplement.
Le flamand, voilà.
C'est le premier membre, le noyau de la Dream Team, qu'abandonnera Louis pour aller voir les manchots empereurs, les vrais manchots empereurs, dans l'Antarctique.
Mais il se sera entraîné dans son grenier à vaincre le froid et à le subir. Et bon, il a failli avoir des mésaventures. Enfin bref, c'est à lire La Fonte des Glaces. Merci Joël Baquet d'avoir été mon invité. Puis surtout merci pour La Fonte des Glaces. On s'est régalé. J'espère que les lecteurs et que les lecteurs manosquins notamment apprécieront votre livre. À bientôt.
Merci à vous et merci aux correspondances de Manosque.
Présent, c'est une invitée qu'on connaît bien, c'est notre amie Marie-Christine Aveline. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
À la fois Éclat de lire et aussi les correspondances. Je sais que, évidemment, toutes les personnes qui travaillent à Éclat de lire et toutes les personnes qui travaillent aux correspondances ont très peu de temps pendant le festival. Merci encore d'avoir été mon invitée pour venir parler un petit peu de toute cette activité et de pouvoir évoquer dans l'émission le travail que vous faites au quotidien pendant les correspondances. Comment ça se passe actuellement d'ailleurs ?
Alors, ça se passe très très bien. Donc effectivement, je suis venue après avoir mis en route dès ce matin les diverses activités qu'on propose pendant les correspondances. Donc il y a des ateliers, deux types d'ateliers sur l'esplanade dans l'espace qui nous est traditionnellement dédié, hein,
la serre,
devant la poste. Donc là, effectivement, il y a des classes qui sont reçues, du tout public, sur deux ateliers, une fabrication de petites boîtes à poèmes et les machines de Sophie. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à venir voir cet atelier qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes sur des vieilles machines à écrire détournées avec des consignes d'écriture. C'est ludique, c'est joyeux et c'est très intéressant.
Vous n'avez pas eu de plainte des fabricants de machines à écrire qui vous ont dit mais vous n'avez pas le droit de détériorer les appareils ?
Non.
Ça va ?
Pas du tout.
Heureusement.
On a aussi ce matin, en même temps, le lancement du prix littéraire des adolescents.
Très important.
Très important, prix qu'on coordonne depuis de nombreuses années. Donc le prix est lancé ce matin avec deux rencontres pour les adolescents. Donc deux rencontres, l'une sur la place de l'Hôtel de Ville avec deux auteurs, Mariam Majidi et Oriane Charpentier. Et une rencontre sur la place Pagnol, donc. Tout ceci se déroule en ce moment sur la place Marcel Pagnol. C'est Florence Inkel qui présente son livre. Et puis on a cette année, je vais en parler parce que vous allez comprendre pourquoi ça me touche un peu plus particulièrement. On a mis en place aussi des balades dessinées. Donc il y en a déjà eu deux hier. Il y en a une qui est partie ce matin. Ce sont des balades dessinées qui regroupent des jeunes lycéens. Ou autres, enfin de l'âge de lycée, et les migrants ou demandeurs d'asile qui sont à Manosque, puisque vous savez qu'à Manosque, on a un centre d'accueil de demandeurs d'asile, donc beaucoup de familles demandeurs d'asile, beaucoup de jeunes migrants qui sont avide de rencontres et de partage. Tout à l'heure, Joël Baquet a dit qu'un festival, c'était un lieu d'échange. Je suis tout à fait d'accord, c'est un lieu de rencontre, d'échange, de partage. Et donc, on a mis en lien des jeunes manosquins ou du département et ces jeunes migrants ou demandeurs d'asile, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, qui vivent à Manosque.
Vous avez travaillé avec le ministère donc, de l'Éducation nationale et des classes ici même, dans le département.
Oui.
Et c'est important à souligner, parce qu'effectivement, c'est une ouverture de l'Éducation nationale et sur une question de société et en même temps artistique.
Tout à fait. Et donc, une illustratrice et carnétiste, Marielle Durand, accompagne ces jeunes pour des balades et leur permet de préparer donc, tout un circuit et leur propose de croquer par le dessin différents lieux du festival. Tout ça se fait donc sous un mode d'échange, voilà. Et ce matin, avant de venir, donc on a lancé cette balade. Et ce matin, c'est pas une classe de lycée, mais alors c'est peut-être encore mieux. C'est un groupe de jeunes volontaires européens qui viennent d'arriver pour un an en France, de différents pays d'Europe, qui ont été accueillis à Marseille, qui vont ensuite être dispatchés à partir de la semaine prochaine dans différentes structures et qui sont donc venus ce matin pour échanger aussi avec les migrants. C'est donc un groupe totalement international qui se balade ce matin dans les rues de Manosque.
Francophone cependant, enfin qui
passe quasiment
pour la plupart.
Pour la plupart, et j'en profite pour signaler que nous à l'association Éclat de Lyre, on va à partir de lundi accueillir un de ces jeunes volontaires européens, Nechati, qui est un jeune turc qui va passer un an avec nous et nous aider sur l'ensemble de nos projets autour des livres et de la jeunesse.
On aura certainement l'occasion de l'inviter ici même et de parler de son beau pays qui vit des heures sombres.
Exactement.
En ce moment. Donc, nous aurons l'occasion de voir. Ça nous permet de saluer toute votre équipe, Marie-Christine. Hein. Depuis des années, nous collaborons à vos actions et nous essayons d'amener, nous aussi, notre petite pierre à l'édifice de la culture, ici même à Manosque, et évidemment dans les Alpes du Sud. C'est pas facile souvent, c'est pas facile même tout le temps, surtout en ce moment. Éclat de Lyre se porte bien, cependant ?
Je crois pouvoir dire que oui. Je dois dire que je suis, moi, très heureuse de coordonner cette équipe qui, je le rappelle, se compose de plus de 30 bénévoles, actifs qui travaillent tout au long de l'année, et voire plusieurs jours par semaine pour certains, puisqu'on intervient dans de nombreux lieux pour essayer d'amener le livre un peu partout et de donner l'envie de lire, le goût de la lecture. Donc c'est une belle équipe, on est au cœur d'un réseau de partenaires importants. Et puis depuis un an, on est dans un lieu que je qualifierais moi de magique, le nouveau centre culturel et littéraire Jean Giono, qui regroupe aussi le bureau des correspondances. Nous avions déjà des liens, mais évidemment, ils sont encore privilégiés davantage. C'est un très beau lieu, on a essayé de mener des actions en commun autour du livre et je crois que ça va vraiment continuer.
En tout cas, on l'espère. On a appris ce matin, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Vous connaissez le Théâtre du Tilleul qui, chaque année, dans le pays du Luberon, propose des spectacles magnifiques depuis une quinzaine d'années à peu près. Claudia Morin nous a appris que le théâtre cessait son activité par manque de subventions, notamment de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues et du département des Alpes-de-Haute-Provence. C'est une catastrophe, culturellement parlant, parce que ça veut dire que on néglige complètement les petits festivals, les petites actions, et quand on porte des textes magnifiques, mais dans des tout petits villages que vous connaissez fort bien, qui sont Montfuron, Saint-Étienne-les-Orgues, Vachères, etc., où la culture a du mal à arriver, pas la télévision par contre, avec ses jeux stupides et ses émissions de divertissement ridicules, là on peut se poser des questions sur la place de la culture dans notre pays. Je ferme la parenthèse et je donne toute mon amitié évidemment à toute l'équipe du Tilleul. J'espère ne pas avoir à dire tout ce désarroi des acteurs culturels pour d'autres structures dans notre département. On en a déjà eu deux depuis le début de l'année qui se sont cassés la figure ici même à Manosque. Le festival Blues et Polar et les rencontres cinéma. J'espère que ce ne sera pas le cas pour Éclat de Lyre, et encore moins pour les correspondances, et encore moins pour Fréquence Mistral, qui aussi est une association. Il ne faut pas l'oublier.
Donc, pardon François, mais bon, c'est vrai que j'allais parler de chance, mais pour l'instant, la ville de Manos, qui est la DLVA, ont vraiment la volonté de développer tout le secteur du livre. Donc, je suis effectivement aussi attristée que vous par la cessation d'activité d'autres associations en ce qui nous concerne. Donc, on bénéficie de ce grand soutien autour du livre. Nous, Éclat de lire, on est aussi à la croisée du monde culturel et du monde social, puisque on a un accent tout particulier envers tous ceux qui ont un accès difficile au livre, et on a donc aussi tout un volant de subventions qui viennent de ce domaine-là, et donc avec des aides énormes de la politique de la ville, ce qui nous permet pour l'instant de continuer à exister et essayer de faire au mieux tout notre travail. Je reviens juste sur le programme des correspondances, puisque
sinon on va nous plomber l'ambiance, c'est pas ce que je souhaite.
Non, qui est un bel événement, nous on est ravis toujours de cette semaine de fête dans Manosque. On a eu des propositions, donc Julien Delmer est là à côté de nous, il a hier fait la joie de centaines et centaines d'enfants qui ont écouté la lecture des aventures intersidérantes de l'ourson Bilout. C'était un moment merveilleux pour tous ces enfants.
C'était un petit peu une découverte pour vous aussi, parce que Julien, avec les enfants,
c'était pas tellement une découverte. C'est vrai qu'on a eu la chance de côtoyer Julien toute l'année dernière pendant sa résidence, et donc de parler et donc de savoir qu'il écrivait aussi pour la jeunesse, et il avait déjà accepté de participer à la fête du livre jeunesse, où il avait lu des magnifiques textes poétiques pour les jeunes ados, dans le cadre du prix littéraire.
C'est pas les textes qu'on lit après 22h30, hein, c'est
ça,
c'est on est d'accord.
Hein.
Et il a lu aussi, il avait déjà fait une petite lecture de l'ourson Bilout, mais dans un cadre beaucoup plus restreint. Mais ça s'était tellement bien passé qu'on a eu envie d'en faire bénéficier à un beaucoup plus grand nombre d'enfants.
Très bonne idée.
Demain, une activité sur l'esplanade pour les familles, avec la réalisation de carnets à quatre mains, donc des duos d'enfants, parents-enfants, grands-parents-enfants, enfin comme on veut, mais des duos pour réaliser des carnets à quatre mains sous la conduite de Marielle Durand qui est là. On a lancé comme chaque année un concours d'écriture, donc là on a reçu déjà des centaines de cartes. Que je dis ça sur un ton un peu peiné, parce que ça veut dire que je vais passer des heures avec mon équipe à lire.
Et à sélectionner,
et que c'est très difficile, parce que c'est très très difficile de choisir parmi tout ce qu'on reçoit. On aurait tellement envie de récompenser tous ces enfants, mais il faut en choisir, c'est le jeu. Donc on va lire, on a déjà commencé, on reçoit des centaines de cartes pour ce concours d'écriture. Donc beaucoup d'activités, mais encore une fois un grand bonheur de participer à ce festival et de pouvoir offrir ainsi à tous les publics des animations autour des livres et de la lecture.
Et de profiter de temps en temps, quand vous avez le temps et l'opportunité, de croiser des auteurs et de discuter avec eux et de parler littérature, poésie, etc. etc.
Ah, tout à fait.
Merci beaucoup Marie-Christine, toutes nos amitiés à vos équipes, aussi bien aux correspondances qu'à Éclat de lire. On va faire un saut en arrière d'une centaine d'années à peu près pour accueillir Julien Delmer qui est déjà intervenu. Bonjour Julien.
Bonjour.
On va parler avec vous de votre livre Minuit Montmartre, mais avant, musique.
À mon merde, chanté par Aristide Bruand. Malgré que je sois un roturier, le dernier des fils d'un poirier, la Ruberte, depuis les temps les plus anciens, nous habitons voisins des miens, à Montmartre. L'an 1870, mon papa cadorait le 3-6 et la verte. Et mort à 47 ans, qui fait qu'il en pose depuis longtemps à Montmartre. Deux ou trois ans après, je fis, qui peut s'appeler pour un bon fils, une rue de perte. Un soir, sur le boulevard Rochechouart, ma pauvre maman se laissait voir à Montmartre. pas très heureux depuis. J'ai pas souvent passé mes nuits sans couverte. Et pas souvent, quand j'avais faim, j'ai pas toujours mangé du pain à mon berce. Mais on était fouettes en ce temps-là, on ne sacrifierait pas sur la butte déserte. Elle faisait la cour à Nini, Nini qui voulait faire son nid à mon berce. Un soir d'automne, à ce qui paraît, pendant que la vieille buteur tirait sa robe verte, nous nous épousions dans les foins, sans mère, sans noce et sans témoin à mon berce. Depuis, nous avons des marmots, des petites jumelles, des petits jumeaux qui feront certe. Des petits poiriers qui grandiront, qui produiront et qui mourront à mon berce.
Le grand Aristide Bruand, dans une de ses chansons, Montmartre, mais ça devient avec son accent à Montmartre. Julien Delmer qui publie chez Grasset Minuit Montmartre, évidemment. Julien Delmer qui nous invite dans le Montmartre du début du XXe siècle, celui que chantait justement Bruand. On y suit le peintre Alexandre Steinlen, qui, ou plutôt Maceida, une ravissante africaine qui sera sa muse, la dernière passion de l'affichiste libertaire qui fit la gloire placardée du cabaret du Chat Noir. On y croise Aristide Bruand, évidemment, mais aussi Picasso ou Apollinaire, par exemple, et des personnages de légende, la Goulue, souveraine déchue, Valentin le Désossé, aux côtés de Toulouse-Lautrec, mais aussi un préfet mélomane venu taster de la plèbe avec gourmandise. De surcroît, Justin Germain Casimir de Selve n'est pas insensible au charme de Maceida. Julien, comment vous êtes-vous plongé dans ce Montmartre-là ?
Alors, je pense que l'envie vraiment d'écrire sur ce milieu à la fois interlope, idéaliste et en clair obscur me vient de très loin, me vient de mes années d'enfance, puisque mes parents étaient de grands fervents de la chanson réaliste. Donc moi, sans même m'en apercevoir, j'écoutais Fréhel, Bert Silva et Bruand. Donc voilà, je pense que ça m'a imprégné. Après, plus consciemment, c'est quand j'ai découvert Théophile Alexandre Steinlein, que je connaissais comme tout le monde en tant qu'affichiste du Chat Noir, mais à vrai dire, je ne savais même pas qui avait fait l'affiche du Chat Noir. Et puis, je m'y suis penché, et là, j'ai découvert un artiste de premier ordre, pas seulement un affichiste, mais aussi un peintre, un reporter, vraiment, on pourrait dire, déjà à l'époque, pour les nombreux journaux, Le Miroir, Sur le Vif, Le Mirliton, etc. Et j'ai découvert cette anecdote, parce que ça reste qu'une anecdote, cette rencontre improbable en 1910 entre Maceida, une jeune femme d'origine sénégalaise, et ce vieil homme qui est à l'époque Steinlein, cette histoire d'amour, mais qui va au-delà de l'amour, qui est une histoire d'abord de création, une mise en relation, et voilà, Maceida va vivre avec Steinlein pendant ces dernières années. Steinlein va peindre sans doute ses plus beaux tableaux, des portraits magnifiques de Maceida. Et puis, à la mort de Steinlein, celle-ci va devenir son héritière. Elle va vivre pendant encore une petite quinzaine d'années dans l'atelier du peintre, au milieu des chats, une sorte de vestale, de gardienne des tableaux, et puis elle est enterrée aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise. Alors la biographie de Maceida tient sur une trentaine de lignes dans toutes les monographies de Steinlein que j'ai pu lire, donc il y avait une bonne part d'imagination, mais pour moi, cette rencontre-là constituait un roman. Alors ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert cette histoire, puis ça maturait très souvent. Voilà, les premiers romans qu'on écrit sont pas forcément les premières idées de romans qu'on a eues, et voilà, quand je me suis senti prêt pour mon troisième roman, je me suis dit qu'il fallait s'y pencher.
Ça nous permet effectivement de plonger dans une époque et dans un lieu particulier qui est le Montmartre, très très spécial parisien. Et je vous propose tout simplement de lire quelques lignes. C'est la première fois que Maceida débarque au Chat Noir, et elle va découvrir tout un univers très particulier, celui-là même dont vous venez de parler, Julien. Elle prit le temps de mieux observer l'assemblée, bigarrée et silencieuse. Elle était la seule africaine, mais les visages devant elle ne correspondaient pas à ceux qu'elle avait pu croiser. La foule était constituée de métèques en tout genre et de toutes origines, italiens des Abruzzes, des Pouilles ou de Sicile, les cheveux plus noirs que les pentes du Vésuve, espagnols à banderilles, juifs, lituaniens, russes, polonais, les pupilles aiguisées par la lecture du Talmud, irlandais hantés par le spectre de la grande famine, wallons et flamands venus tout droit de leur borinage, apaches sans tribu fumant le calumet de la paix, nobles catins de la goutte d'or, comtesses déchues de Rhénanie, gitans Yénich, Romanichel, l'oreille percée d'un anneau d'argent, les seuls fils et filles de France étaient des provinciaux, bretons, auvergnats ou lorrains, montés à la capitale, un rude accent sous la mâchoire. Masséida fut émue par ces visages qui la rendaient moins étrangère.
Alors la seule petite rectification, c'est que ça se passe au Lapin Agile.
Le Lapin Agile, pardon.
Et pas le Chat Noir, mais c'est intéressant aussi parce que ça permettra peut-être d'introduire la dimension profondément mélancolique du roman. C'est-à-dire que là, on est face à un Steinlein qui est, pour le coup, lui aussi hanté par les fantômes de sa jeunesse. Steinlein, il débarque en 1880, 10 ans après la Commune à Montmartre. Et là, c'est pour lui l'âge d'or. Il est jeune, il a pour ami Toulouse-Lautrec, Degas, et vraiment, il participe à l'âge d'or de Montmartre. Mais là, en 1910, c'est un vieil homme. La plupart de ses amis sont morts, soit de cirrhose, soit de syphilis. Et lui, il se retrouve tout seul. Et effectivement, voilà, il pense au Chat Noir, il pense à cette époque héroïque. Et là, ça se passe au Lapin Agile, qui est un lieu qui existe toujours, d'ailleurs, à Montmartre, un des derniers lieux de l'époque vraiment qui n'est pas fermé ses portes, avec le Moulin Rouge aussi. Et alors, le Lapin Agile, c'est un lieu qui était tenu par une figure mythique de Montmartre qui s'appelait Frédé, une sorte de grand escogriffe avec des longs cheveux blancs et un chapeau de marin breton, et un âne qui est resté célèbre, qui s'appelle l'âne Lolo. Et donc, c'était un lieu a rien à voir avec, pour le coup, le Moulin Rouge. C'est-à-dire que c'est vraiment un lieu, on va dire, poussiéreux, sans aucune décoration spectaculaire. C'est des planches de bois, des tréteaux. Et puis, par contre, voilà, tous les baladins, les peintres désargentés s'y rendaient. Alors, à l'époque, c'est plus l'époque de la bande à Steinlein, c'est la bande à Picasso, la bande à Apollinaire, etc. Donc, c'est une nouvelle génération qui arrive du bateau Lavoir, en l'occurrence. Et donc, voilà, Masséida arrive là. C'est sa première découverte de Montmartre. Et puis là, elle se rend compte que si, effectivement, elle est la seule femme à la peau noire, par contre, effectivement, la faune de Montmartre est extrêmement cosmopolite. Ça, je l'ai découvert, d'ailleurs, en faisant des recherches. Paris, à l'époque, était extrêmement cosmopolite. Et les grands noms qui ont fait la gloire de la France sont tous des étrangers. Que ce soit Modigliani, que ce soit Soutine, que ce soit Chagall. Et ils venaient à Montmartre parce que les loyers étaient vraiment bas, et puis parce qu'il y avait cette solidarité entre artistes désargentés qui est assez formidable. Il y a des descriptions, on voit Soutine qui brûle une de ses dernières chaises pour réchauffer les copains artistes qui viennent dans sa chambre. Enfin, c'est la bohème, attention, hein, c'est pas quelque chose qui doit être mythifié. C'est d'abord la misère. Moi, j'ai lu des textes de Max Jacob où il dit le Montmartre de l'époque, c'est un Montmartre sordide d'un certain côté, mais voilà, il règne cette sorte de chaleur solidaire, et c'est ça qui m'intéressait, oui.
C'est pour ça aussi qu'avec la misère, il y a la verte, autrement dit l'absinthe qui est là, qui permet d'oublier, et ça d'ailleurs Masséida abandonne complètement après Steinlein, et donc c'est un peu particulier. Il y a un autre extrait qui est particulier, vous l'avez dit, Steinlein est un grand artiste, c'est un grand peintre qui a fait des choses magnifiques, et il est en train de peindre Masséida, qui lui a redonné envie de peindre, et de peindre des tableaux plus que des affiches. Et là, il y a une page de poésie à la fois sur le corps de la femme et en même temps sur le geste même et l'œil du peintre. Le pinceau courbait les paysages, pliait les chairs, la chevelure de Massa, noir corbeau, cordage silencieux, le front de Massa, oued paisible, noix de cajou, le ventre de Massa, Vésuve clandestin, tête brûlée, la couleur encadrait la silhouette mais ne l'enfermait pas. Les seins de Massa, bijoux de la terre, ombre, ocre sombre, ébonite, la couleur n'existait plus, pure condensation de l'obscur, elle ruisselait sur la toile comme sur le toit d'une prison.
Alors moi, l'idée vraiment de ce roman, c'était de célébrer le geste pictural, le geste du peintre. Moi, j'avais vraiment envie qu'on rentre au plus près de l'atelier. Ça sent la terre ébantine en permanence dans ce roman. On est vraiment voilà au plus près des pigments. Steinlein, c'était quelqu'un qui a tiré le diable par la queue toute sa vie, qui était fauché, donc qui faisait ses toiles lui-même, qui montait ses châssis. C'est vraiment ce côté aussi artisanal de la peinture que j'aimais. Et puis aussi, j'ai interrogé ce rapport un peu ambigu et en même temps très très émouvant entre le peintre et son modèle, c'est-à-dire un rapport qui passe par le geste plus que par les mots, qui peut être, j'imagine, chez certains peintres, un rapport de domination, un rapport carnassier, et là qui est un rapport de tendresse, de pudeur. C'est vraiment un rapport très pudique. Steinlein, c'est quelqu'un qui est libertaire, vous l'avez dit, qui est même un militant anarchiste, et c'est quelqu'un qui jette sur Masaïda. Et c'est peut-être le seul, d'ailleurs, qu'elle rencontre, non pas un regard exotique, concupiscent, mais plutôt un regard, voilà, de presque de fraternité. Et c'est pas du tout une relation qui repose sur le désir, sur le désir vorace. C'est plutôt, voilà, deux êtres blessés, parce que Steinlein est âgé, mais il est veuf aussi, il vient de perdre sa femme, il est on va dire en perte de vitesse au niveau de sa carrière, il doute énormément. Steinlein, Masaïda, elle est déracinée, elle vient de Saint-Louis du Sénégal, elle a dû traverser des années de tribulation, des épisodes d'ailleurs assez sombres qu'elle n'évoque pas, mais qui reviennent comme des cauchemars l'a hanté. Donc ce sont deux êtres blessés, pudiques, qui se soignent l'un l'autre à travers justement l'alchimie de la peinture. Et dans tous mes romans précédents, la peinture était là. Dans mon premier roman, Georgia, c'était une peintre aussi, une peintre d'ailleurs qui dégringolait parce qu'elle était dans une sorte de quête d'absolu, un peu comme Van Gogh. Voilà, elle ne vivait que pour la couleur et elle finissait par se brûler les ailes. Mon deuxième roman, Frère des Astres, c'était vraiment les paysages qui évoquaient la peinture. On partait du nord et voilà, avec des couleurs un peu ocre, terre de sienne, etc., qui évoquait les peintres flamands, et puis on descendait vers la lumière, vers la couleur, avec des teintes qui évoquaient Van Gogh et même à la toute fin Nicolas de Staël. Donc voilà, pour moi, la peinture, c'est ce qui nourrit mon écriture. Il y a deux choses, il y a la peinture et la musique, et là, en l'occurrence, vraiment, je voulais me rentrer au plus près vraiment de la matière et des pigments. La musique n'est pas absente, ceci dit, hein. Voilà, moi, mon idéal, parce que peut-être qu'à chaque fois qu'on écrit un roman, en tout cas moi j'ai un idéal, j'aimerais que ce roman se lise comme on écoute une chanson réaliste, parce que pour moi ce sont vraiment des chansons qui sont d'une sorte de poésie de la rue, qui jettent un regard sur des gens invisibles et qui élèvent voilà les paumés qui sont pas aimés avec leurs allures de marlou, les filles de rien, les filles de la rue, qui les élèvent au rang de héros quasiment, et ça m'a toujours ému, ça.
Et puis, Julien, la guerre de 14. La guerre de 14 fait voler en éclats ces dernières heures de la belle époque et de son fourmillement artistique. Steinlein voit l'un de ses dessins dévoyé, quatre veuves éplorées devant un cercueil recouvert d'un drapeau et qu'il avait cyniquement légendé la gloire, devient honneur à ceux qui sont tombés. Les fabriques de cartouches et les succursales du vice prospéraient, lit-on dans Minuit Montmartre. Avec les difficultés des artistes pour subsister, on est témoin aussi des ravages de la verte, terribles et sournoises absinthes, la misère, la violence, les combines, les crimes et la prostitution. Triste finale, un monde en mutation, mort et enterrement de Steinlein, le défilé des fantômes, démolition, expropriation, incendie, Montmartre disparaît, les autos roulent plus vite, l'électricité a remplacé l'allumeur de réverbère. Alors, c'est la fin de Montmartre, d'un Montmartre en tout cas.
D'un Montmartre, alors c'est vraiment le cœur aussi du roman. C'est la mélancolie, c'est-à-dire que il y a vraiment cette espèce de, progressivement au fil du roman, on voit effectivement le vieux Montmartre, le Montmartre au pied de la butte, qui était encore quasiment un village à l'époque, hein, où il y avait encore les dernières traces de ce qu'on appelait le maquis, c'est-à-dire tout simplement aujourd'hui on dirait une sorte de bidonville, mais c'était parfois même des petits chalets de bois, enfin un village avec des poules, avec des potagers, etc. Se faire lentement, j'allais dire, haussmanniser, c'est-à-dire que Montmartre devient tout simplement le 18e arrondissement de Paris, les maisons de bois s'écroulent une à une, où il y a des incendies d'ailleurs plus ou moins criminels qui permettent d'accélérer aussi l'urbanisation. Et ça, c'est vraiment des questions très modernes, parce qu'aujourd'hui on appelle ça la gentrification, mais déjà à l'époque se posait cette question de voilà, comment un quartier populaire doucement revient à une certaine norme, même si c'est intéressant quand même de voir que le 18e aujourd'hui encore reste une sorte d'enclave un peu irréductible, perceptible au sein de Paris. Mais voilà, donc Steinlein voit vraiment sa jeunesse en gros partir avec les pelleteuses, etc. Puis arrive la guerre, et ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu la biographie de Steinlein. C'est que il est vieux, mais il reste fidèle vraiment à ses idéaux libertaires, et il va peindre non pas les soldats, non pas glorifier la guerre, mais au contraire accompagner le peuple de Paris, le peuple, et peindre le peuple en armes. C'est-à-dire que quand on regarde ses dessins dans les tranchées, on voit vraiment l'instituteur, l'ouvrier, mais en armes, et sans forcément en faire de trop, on comprend que c'est le peuple qui paye toujours les pots cassés des guerres. Mais évidemment, ça le mine, il rentre, il peint encore, il continue à dessiner jusqu'à son dernier souffle, et puis effectivement, il meurt, et là, les années folles arrivent, on veut oublier les horreurs de la guerre, et Masaïda reste dans l'atelier et se rend compte à quel point elle n'a jamais été aussi elle s'y perdue au niveau de cette modernité qui ne lui fait pas de place. À l'époque où Masaïda meurt, c'est pas évoqué dans le roman, j'ai préféré l'interrompre avant, mais triomphe Joséphine Baker. Mais voilà, Masaïda est déjà d'une autre époque. C'était une pionnière. En 1909, il n'y avait pratiquement pas de noirs à Paris. C'est 20 ans après, effectivement, le jazz triomphe, Joséphine Baker, 10 ans après, la négritude, etc. Mais là, être négresse à Montmartre en 1909, c'était vraiment devoir faire preuve d'énormément de courage, de résistance aux préjugés, etc.
Alors, parmi les personnages que dans votre livre qu'on croise, évidemment, il y en a un qui est très étonnant. C'est un chat noir. Évidemment, bien sûr, et qui est nommé Vaillant. Il guide Masaïda jusqu'au peintre Steinlein, mais surtout il va la sauver de Francis, un souteneur qui l'agressait. Et puis on croise aussi un poète qui assiste au chant de Masaïda et qui déclame des vers. Elle s'en venait de Tombouctou, etc., etc. C'est Guillaume Apollinaire. Vous y étiez quasiment dans cette scène.
Dans cette scène du lapin agile, là, je dois dire que je me suis régalé parce que, bon, j'ai relu beaucoup Apollinaire pour écrire le roman. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur une citation d'un poème d'alcool. Et c'est vrai que là, ouais, mon pastiche d'Apollinaire bourré, hein, je prétends pas avoir pu imaginer Apollinaire au top de sa forme, mais voilà, je trouve que ça aurait pu parfaitement être un poème d'Apollinaire après 4-5 verres d'absinthe, ouais, je pense. Et j'aime beaucoup le personnage du préfet qui a vraiment existé, hein, Justin Germain Casimir de Selve, c'est le successeur de Jeanne Poubelle à la préfecture de Seine, et il était effectivement mélomane et pianiste. Après, bon, son engouement pour la Java, tout ça, je l'ai
romancé.
Je l'ai bien sûr imaginé et romancé, mais c'est vraiment un personnage qui m'est cher parce qu'il apporte cette petite touche un peu d'humour et de dérision qui ferait que si elle n'était pas là, je pense que le roman pourrait paraître assez sombre. Pour moi, ce roman, c'est un blues. Alors tout, voilà, moi quand je dis que ce qui relie mes romans, c'est le blues, alors pas comme musique forcément, mais comme état d'esprit, c'est-à-dire à la fois mélancolie et en même temps, voilà, acte d'affirmation de soi, de reconstitution des fragments un peu épars de la vie des personnages. Donc voilà, c'est un long blues qui coule, et puis les chats sont là parce que je voulais vraiment qu'il y ait une dimension de conte. C'est un conte. Ça pourrait se résumer à « Il était une fois une jeune négresse perdue dans les rues noires de Montmartre, un chat la guide et la accompagne jusqu'à la porte d'un vieil homme qui lui ouvre la porte et lui ouvre. » Voilà, une sorte de boîte à imaginaire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un conte avec cette fluidité, avec cette candeur volontaire parfois. Hein. Il y a un personnage qui m'est très cher qui est l'allumeur de réverbère qui rythme le...
César Van Hove
qui vient de Namur et qui a un accent wallon et qui voilà qui permet justement aussi de voir la transition, puisque la fée électrique finit par évidemment convertir Montmartre comme elle convertit tous les quartiers de Paris, mais c'est un dernier quartier à avoir été équipé d'électricité, Montmartre.
Il remarque aussi que les voitures roulent plus vite.
Oui,
près 20 km/h.
Hein.
C'est ça, donc c'est assez
impressionnant.
Étonnant. Bon, Julien, on n'aura pas le temps d'écouter Miguel Bonnefoy, je le dis à Amandine.
Désolé,
on écoutera Miguel demain dans une interview. Mais on va rester sur le passage que vous avez vécu ici même. Elle est en train de s'achever, votre résidence à Manosque. Qu'est-ce que vous y avez appris? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Alors vraiment, ce que j'ai fait d'abord, je pense, c'est il y a eu, c'était vraiment, j'étais de janvier à juin, donc par période de 10 jours, ce qui m'a permis de voir Manosque un peu sous toutes les saisons. Il y a eu énormément d'activités, que ce soit des ateliers, des lectures. Je me rappelle d'une très belle soirée de lecture de poèmes haïtiens, notamment au centre Giono, de très belles rencontres. Alors moi, très égoïstement pour mon travail, ça a été hyper important puisque j'ai relu 3 jeux d'épreuves pendant ma résidence. C'est-à-dire que j'ai pas écrit le roman à Manosque, mais dès la mi-janvier, j'étais en train de le relire, de le corriger, etc. Donc, en gros, si Minuit Montmartre a pu paraître dès la rentrée de septembre, c'est parce que j'ai pu m'y consacrer vraiment pleinement à sa relecture et à son ajustement pendant la résidence. Donc, ça a été vraiment pour moi une résidence extrêmement importante d'un point de vue voilà de l'écriture. Et puis, effectivement, ouais, me découvrir Giono, parce que je l'avais très mal lu. Je dis pas que j'ai lu l'intégrale, hein, je vais pas vous mentir, mais j'ai lu du roman de Giono qui m'ont plu, notamment Regain, qui m'a énormément impressionné. Et voilà, des rencontres, la possibilité de lire quand même pour la première fois L'Ourson Bilout avec Éclat de Lire, ça a été
un grand moment,
oui, voir quel point les jeunes accrochaient, que c'était vraiment quelque chose qui... D'ailleurs, aujourd'hui, on a décidé avec mon éditrice chez Grasset Jeunesse de privilégier justement les lectures comme mode de diffusion, donc c'est quand même pas rien. Et puis voilà, on se rend compte à quel point finalement on a l'impression voilà de faire partie un peu de la ville alors qu'on y est resté que 6 mois. Là, je croise plein de gens dans la rue qui me saluent, des gamins, hein, qui me disent c'est l'ourson Bilout, c'est lui papa. Enfin voilà, ça s'est vraiment passé en fait avec une incroyable simplicité, fluidité ce séjour.
Et vos horoscopes?
Ah, les horoscopes, c'est vrai que j'avais oublié. Non, ça aussi, c'était super. Moi, c'était un de mes vieux rêves. Moi, j'ai 2 rêves, c'est de présenter la météo et de faire des horoscopes. Donc, l'horoscope, c'est fait. Et ben, en plus, voilà, les correspondances ont choisi de les exposer, un peu un best-of au bar des correspondances. Donc, chaque jour, vous pouvez aller voir votre horoscope selon votre signe. Voilà. Donc, ça a été un grand, grand moment aussi pour moi de détente.
Ouais. On vous retrouve tout à l'heure, Julien. Vous serez sur scène dans une rencontre animée par Michel Abesca. Avec Anne et Claire Bereste qui ont écrit un superbe Gabriel. Vous l'avez lu ?
Oh oui, je l'ai lu, je l'ai même lu 2 fois.
C'est un livre qui évoque la vie de leur arrière-grand-mère qui était la femme de Francis Picabia. Et on croise un petit peu la même période, le même moment, et presque certains acteurs, notamment Apollinaire. Dans leur livre. Une rencontre qui va être fructueuse, je suppose, entre vous trois.
J'ai vraiment hâte d'échanger avec elles parce qu'effectivement, leur livre, il y a énormément de similitudes. Et puis en même temps, voilà, il y a un ton qui est très particulier. C'est vraiment une longue fresque qui s'étale, elle, sur près de 30 ou 40 ans. Et en plus, ce sera une sorte d'échauffement puisqu'on aura la chance de dialoguer ensemble le 5 octobre aussi à la Villa Gilet à Lyon. Donc voilà, ça va être une répétition générale.
Et comme par hasard, ce sont 2 femmes qui ont servi tout simplement de détonateur à des artistes Picabia d'un côté et puis Steinlein de l'autre. Donc, 2 femmes évidemment très différentes et qui ont eu leur vie aussi très différente. Mais on peut faire des parallèles comme ça entre vos 2 livres et je pense que Michel Abesca les fera tout à l'heure.
J'en suis sûr.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir été mon invité. Et puis merci aussi pour toutes les autres présences ici même dans ce studio que vous avez réalisé pendant votre résidence.
C'est
un énorme plaisir pour nous aussi. Merci Marie-Christine Aveline d'avoir été notre invitée aussi. Et puis
merci aussi
Joël Baquet. Bonne correspondance à Manosque. On espère vous voir pour les glaces fondues après. Hein, on verra. Après la fonte des glaces.
Bah, il faut pas espérer que ça continue à trop fondre quand même. Sinon,
oui,
Manosque va commencer à clapoter, là.
Oh là là, oui. Oui. C'est déjà un petit peu le cas.
Mais
bon.
Il y a de la marge.
Oui. Merci encore. Merci aussi, Amandine, pour la régie. On a le temps d'écouter un tout petit peu de Radio Elvis qui est ce soir à la clôture de la journée et qui va évoquer notamment Jack London. Et puis tout de suite après, vous aurez RFI. À bientôt et à demain, donc.
Merci à vous, une bonne journée sur Fréquence Mistral.
Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée.
Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes. Des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Soleil retrouvé, nos silhouettes.